Là-dessus, on baille.
Aïe, 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 arrêtez, tout le monde va s'y mettre.
C'est contagieux, Monique. Alors, l'ultra-puissance du baillement.
Oui, c'est ça. Alors, il y a un docteur qui s'appelle Ramiro Joly Mascheroni, qui est un chercheur en neurosciences cognitives à l'Université Saint-Georges de Londres, qui, lui, ne cesse de s'émerveiller du pouvoir de contagion, voire de suggestion du bâillement. Alors, on a tous vécu ça, ou presque, en tout cas, j'imagine. Le phénomène, c'est celui de bâiller, c'est irrésistible. Lorsque quelqu'un bâille à s'en décrocher la mâchoire, sous notre nez, ben nous l'imitons quasiment à coup sûr. Et on n'est pas les seuls, c'est-à-dire les humains. Alors, pour leur toute nouvelle étude parue en juin dernier dans la revue Nature, le docteur Ramiro Joly Mascheroni et son équipe ont poussé l'expérience à l'extrême. Alors, Hélène, avec une tête d'androïde, ils l'ont placée devant des chimpanzés.
Ah oui?
Oui.
Puis le chimpanzé a baillé?
Alors, la tête a adopté toutes sortes d'expressions faciales et mimiques, et lorsqu'elle s'est mise à bâiller, ben ça n'a pas manqué. Les chimpanzés ont fait de même. L'effet de contagion du bâillement a été observé chez de nombreuses espèces, et même entre espèces différentes. Alors, en 2008, le chercheur avait déjà montré que les chiens pouvaient attraper les bâillements des humains.
Wow!
Chien, j'ai pas fait l'expérience, là, mais je vais demander à une copine qui en a un, voir si son chien baille quand elle baille. Alors, il a voulu, ce chercheur, vérifier si la même chose pouvait se produire à partir d'un agent non vivant. Alors, peu importe qui ou ce qui baille, du moment qu'il le fait. Non seulement l'expérience a été concluante, mais la réponse des chimpanzés s'est avérée graduée, Hélène. Alors, plus la bouche robotique était grande ouverte, ben, plus le taux de mimétisme parmi les animaux était important. Une simple singerie de leur part? Probablement pas, car les chimpanzés ont aussi commencé à adopter des comportements associés à la somnolence, comme rassembler de quoi s'aménager une place pour dormir et s'allonger. Alors, tout porte à croire que l'effet observé va au-delà d'une simple réponse automatique. Ce constat suscite de nouvelles réflexions sur l'impact du bâillement et sur celui de son observation. Il est possible que le fait de reproduire soi-même cette action motrice renforce les représentations qui lui sont associées et prépare au repos. Alors, pourquoi baillons-nous? Que ce soit de nous-mêmes ou en copiant les autres, les humains et les animaux ont tendance à le faire dans les mêmes circonstances, soit peu après le réveil, avant de se reposer, lors de transitions importantes dans la journée et d'événements stressants. Mais l'utilité réelle de ce geste demeure largement inconnue. La question intrigue. Ah! Depuis quand? L'Antiquité, Hélène. Et Hippocrate avait déjà sa petite idée. Lui pensait que cette contraction musculaire, involontaire et puissante permettait d'évacuer efficacement la fièvre. Bon, mais encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est efficace. Peut-être que c'est plus qu'un simple mimétisme. Andrew Gallop, qui est biologiste du comportement à l'Université Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, cherche à percer le mystère depuis 20 ans. Et je le cite. « En fin de thèse, j'ai choisi de me consacrer à l'étude du bâillement. Je trouvais assez étonnant que personne n'en connaisse les causes, alors qu'il s'agit d'un phénomène universel observé chez tous les vertébrés et alors que nous le faisons tous les jours dès notre plus jeune âge. » Le chercheur a donc mené des études chez l'humain, chez l'animal, étudié à l'imagerie ce qui se passe dans le cerveau et les modifications de la respiration. Alors, chez l'humain, il a montré que refroidir la tête ou respirer par le nez réduit la fréquence de bâillement, tandis que la chaleur l'augmente. Alors, j'ai suggéré à mon chéri qui se déplaçait vers Montréal. Alors, c'est chronique, Hélène, à chaque fois qu'il rentre dans la voiture, il se met à bâiller.
Ah oui!
Alors, j'ai dit, ben, en allant vers Montréal, ouvre ta fenêtre et respire par le nez. Alors, il me dit que ça a été assez efficace.
Ah!
Alors, petite expérimentation, l'échantillonnage est très limité.
Mais ça a fonctionné sur votre chéri.
Ben, ça a fonctionné sur notre... En effet. Alors, le chercheur a donc mené des études chez l'humain, comme je disais. Et donc, quand on respire par le nez et qu'on a de l'air frais, ben, ça ralentit.
Les bâillements.
Chez l'animal, ben, il a constaté que la température cérébrale augmente avant un bâillement et baisse juste après. D'où l'hypothèse non confirmée que le bâillement ne serait pas seulement un signe de fatigue ou de lassitude, mais un mécanisme actif de la ventilation cérébrale qui, en nous faisant inhaler de l'air frais, soutiendrait les transitions entre sommeil et éveil en gardant le cerveau à la bonne température. Une fonction physiologique importante qui expliquerait pourquoi le phénomène a été conservé au cours de l'évolution, mais qui n'explique pas encore la contagion. Le bâillement serait-il devenu un comportement social? Alors, le chercheur se concentre aujourd'hui sur cet aspect. L'expérience l'a montré, le bâillement induit par d'autres est un comportement propre aux espèces sociales et n'a été documenté à ce stade que chez une vingtaine d'entre elles. On estime que 75% de la population est potentiellement contaminable par un bon bailleur. Et il n'est même pas nécessaire de l'avoir devant soi. Une vidéo peut suffire, ou même un son. Les études ont aussi montré que la simple évocation du bâillement pouvait le déclencher. Oui, c'est plus complexe, plus profond, plus fort qu'un simple mimétisme. Alors, à cet effet, Steven Platek, chercheur en neurosciences à l'Université Georgia Gwinnett à Lawrenceville aux États-Unis, va encore plus loin. Être connecté émotionnellement aux autres serait indispensable pour bâiller de concert avec eux. Il a donc conduit une série d'études pour mieux le comprendre. Alors, ces travaux ont montré que la susceptibilité d'une personne au bâillement contagieux est liée à ce qu'on appelle sa théorie de l'esprit, c'est-à-dire sa capacité à modéliser les états mentaux d'autrui. Les enfants ne commencent d'ailleurs à bâiller qu'après avoir développé leur conscience d'eux-mêmes, soit vers l'âge de 18 mois. Et l'imagerie cérébrale a montré que le bâillement active des ondes cérébrales très spécifiques. Alors, le sourire, le bonheur et d'autres émotions contagieuses sont généralement associées à l'activité du système limbique, qui est situé, je crois, à l'arrière du cerveau vers le cou. Dans son étude, le bâillement contagieux était lié, lui, au conius postérieur. Ça, c'est placé plus en avant du cerveau. Alors, les raisons qui nous poussent à bâiller en chœur sont plus que jamais ouvertes à l'interprétation. On pourrait y trouver un intérêt non seulement individuel, mais aussi collectif. En 2021, il y a une équipe de l'Université de Pise qui a montré que chez les lions africains, la propagation du bâillement facilitait la synchronisation des mouvements. Alors, parmi les fauves, si un animal se lève, bâille, puis commence à bouger, ben, les autres suivent son exemple. Chez l'humain, le phénomène serait alors un reliquat de nos modes de vie ancestraux. Aujourd'hui, la plupart des humains vivent dans des conditions très différentes de celles que nous avons connues au cours de notre évolution. Pendant 99% de l'histoire humaine, les mouvements coordonnés et la vigilance collective du groupe ont certainement été très importants. Le bâillement relève bien de la communication, mais a priori pas dans sa forme la plus sophistiquée. Alors, en langage humain, le bâillement est loin d'avoir une signification univoque. Elle bâille, bon, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle décompresse? Ou bien est-ce qu'elle nous trouve terriblement ennuyants? Ben, qui sait? Je pense, Hélène, que nos chercheurs ont encore du travail à faire pour répondre à la question « Pourquoi bâille-t-on? »
Mais j'en viens pas que ce scientifique s'intéresse au bâillement depuis 20 ans.
Oui!
Je pense qu'il dort sa job.
Exactement, pour moi, il baille trop.
Et je pensais aussi, Monique, au hockey, un jour, là, peut-être qu'il faudrait s'y intéresser.
Ça, ah oui,
des trucs, pour l'arrêter aussi, là, parce qu'on a toutes sortes de trucs. Il y a des trucs qui fonctionnent pour certaines personnes, d'autres non. Des légendes urbaines, enfin. Mais c'était vraiment intéressant. Et puis, je regardais aussi bailler aux corneilles. Là, c'est une faute d'orthographe courante pour bailler aux corneilles. On écrit bailler aux corneilles. La vraie façon de l'écrire, c'est B-A. Y-E-R, qui signifie « rester la bouche ouverte ». C'est différent de bailler, qui est une inspiration involontaire.
Ah, intéressant.
Vous n'avez pas fait bailler?
Je ne sais plus lequel des deux, là, mais peut-être les deux en même temps.
Merci. Alors, Monique, on y va avec les brèves.
Oui.
Est-ce vrai que plus on coupe un oignon lentement, moins on pleure?
Qu'en pensez-vous?
J'ai l'impression que c'est le contraire, je ne sais pas.
Ben, en fait, oui.
Ah oui?
C'est oui.
Ben merci,
alors,
je vais essayer ça.
Ce qu'ont fait des chercheurs de l'Université Cornell aux États-Unis. Ils ont combiné une vélocimétrie par suivi de particules à grande vitesse et la corrélation d'images numériques pour visualiser et quantifier l'éjection de gouttelettes au moment de la coupe de l'oignon. Alors, ils ont constaté que la projection d'aérosol se fait d'abord à grande vitesse sous l'influence de la pressurisation de la première couche, puis plus lentement. Alors, ils ont développé un modèle d'oignon simplifié à deux couches élastiques et ils ont démontré expérimentalement et théoriquement comment des lames de couteau affûtées conduisent non seulement à moins de gouttelettes, mais aussi à des gouttelettes plus lentes. Donc, Hélène, la formule gagnante pour garder nos yeux secs au moment où on cuisine et qu'on doit couper des oignons, ben, c'est de bien aiguiser nos couteaux et y aller doucement.
Ah.
On ne pleurera pas.
Bien, merci pour ce conseil fort judicieux, parce que moi, je pleure à tout coup. J'ai pas le contrôle sur mes oignons.
Mais vous avez le contrôle sur votre couteau.
Oui. De quoi a besoin le cerveau pour fonctionner, Monique?
Bon, ben, on a découvert que le cerveau utilise aussi le gras pour fonctionner. Bon, on a toujours dit, hein, il était établi que les neurones puisaient exclusivement leur énergie dans les sucres. Jusqu'à ce que des biologistes, encore de l'Université Cornell, met en évidence une consommation régulière de lipides. Ce gras permet même aux neurones de maintenir leur activité en l'absence complète de sucre. Mais j'imagine qu'un équilibre des deux est plus adéquat.
Absolument. Le gras et le sucre.
Le gras et le sucre, mais c'est intéressant parce qu'on a toujours pensé, ah, il faut manger du sucre pour notre cerveau, ben, des fruits, des trucs, pas du sucre
raffiné. Non.
Mais alors voilà que j'imagine le bon gras.
Oui, parce qu'il y en a du bon aussi.
Oui, c'est ça, exactement, comme le gras de canard.
Oui.
C'est un bon gras.
Tellement bon. Et vous terminez, Monique,
à cause que... Est-ce que c'est une faute que l'on entend? Oui!
Oui, on l'entend.
Et Guy Bertrand nous dit que c'est une faute étonnante à notre époque. Imaginez, Hélène, que jusqu'au 18e siècle, il y avait deux locutions qui exprimaient la cause, qui étaient en usage. Il y avait « à cause de » et « à cause que ». Et on faisait suivre « à cause de » d'un nom ou d'un pronom, comme on le fait aujourd'hui. Mais on utilisait aussi « à cause que » pour introduire une subordonnée causale. Mais en français moderne, on n'utilise plus « à cause que ». On dit plutôt « parce que ». Il faut aussi rappeler que la locution « à cause de » introduit des réalités dont les conséquences sont négatives. On dira par exemple que la situation s'est détériorée à cause de la négligence des administrateurs. Quand les conséquences sont positives, puis on va utiliser « grâce à ». Grâce à, pardon. La locution « en raison de », par ailleurs, peut s'utiliser en toutes circonstances, positives ou négatives.
Il y a une chanson qu'interprète Céline Dion qui s'intitule « à cause de la vie, à cause des grands rêves ». On s'était mis à cause d'un instant, à cause d'une ambiance. C'est fautif, ça?
Un petit peu fautif. fautifs parce que ce seraient des éléments négatifs, en fait, qui devraient suivre à cause d'eux. Elle aurait peut-être pu dire en raison d'eux, mais c'est
Ça aurait peut-être été moins beau, phonétiquement, moins mélodieux,
musicalement.
Oui, peut-être, mais à chaque fois que j'entends cette chanson, je ne sais pas, il y a quelque chose qui tique dans ma
tête.
Oui?
Ben, vous
à cause que... en raison de...
Voilà l'explication.
C'est ça, c'est pas du bon français. Bien, Monique, merci pour tout et on se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Merci beaucoup et à nos plaisirs.
Au plaisir.